Chers auditeurs, Ave à tous. Vous êtes à l'écoute d'Antenna IOVOX, Frequentia émanant du site Intégralisme organique de Florian Rouanet. Pour notre analyse aujourd'hui, on s'appuie sur plusieurs documents. Des extraits d'études, des citations de l'auteur lui-même, des éléments de bio aussi. Et notre but, c'est de décortiquer un peu la pensée d'une figure, disons-le, singulière et controversée, Federico Rivanera Carles. C'est un penseur argentin et il a défendu une thèse, assez radicale, oui, l'idée que le national-socialisme d'Hitler, loin d'être l'ennemi du catholicisme, pourrait en être l'expression la plus haute.
Carrément.
Ce qu'on lit dans nos sources s'adresse le portrait d'un idéologue, quoi, ancré à l'extrême droite traditionnaliste en Amérique latine, avec une idée fixe, cette fameuse judaïsation du christianisme. Et pour lui, le pire, l'apogée, c'est Vatican II. Alors, la question qu'on se pose direct, c'est comment ?
Comment un intellectuel qui se dit catholique en arrive là, à faire l'apologie d'Hitler ? C'est quoi sa logique, si on peut dire ?
Oui, c'est exactement ça le nœud du problème, et c'est ce qui rend sa pensée si particulière. On va essayer de voir ensemble comment il arrive à connecter deux choses. D'un côté, ce qu'il appelle le catholicisme intégraliste.
C'est-à-dire ?
Pour faire simple, c'est un courant qui veut appliquer la doctrine catholique tradie, mais de manière ultra stricte à toute la société. Donc, rejet du modernisme, de la sécularisation, et surtout de Vatican II.
D'accord. Et l'autre pôle ?
Et de l'autre côté, une admiration, mais alors affichée, sans aucun complexe pour Hitler et son idéologie. Et les sources suggèrent que c'est pas un hasard, ce lien. Plutôt une sorte d'affinité élective, comme une attraction logique entre les deux.
Ok. Pour comprendre le personnage, peut-être commencer par son parcours. C'était qui, Rivanera Carles ?
Alors, il est né en 1941. Décédé très récemment, selon nos infos, le 1er octobre 2025. Historien de formation, oui, mais il a émergé publiquement assez tardivement, en fait.
Et son premier livre marquant, c'était quand ?
C'était l'Allemagne de Hitler à travers la Prensa Mondiale, sorti en 82. Et là, le message est clair d'entrée. Son but, c'est pas d'analyser Hitler, mais de le défendre contre ce qu'il appelle une diffamation mondiale orchestrée par la presse.
Aux mains de la conspiration judéo-maçonnique, j'imagine.
Exactement, c'est ça l'idée. Et ce qui est intéressant, c'est la date de publication, 82. En Argentine, c'est le tout début du retour à la démocratie avec Alfonsine, juste après la dictature.
Ah oui, c'est notable ça.
Oui, ça suggère, comme le notent nos sources, qu'il y avait peut-être une certaine marge de manœuvre, on va dire, pour ces idées radicales, même à ce moment-là.
Et il n'était pas qu'un auteur, il militait aussi, c'est ça ?
Il a dirigé le Movimento Nacionalista Social.
Le MNS.
Tout à fait, oui. Dans les années 70 et 80, une organisation qui aurait eu jusqu'à 400 membres, quand même. Et le programme, c'était un mélange assez détonnant. Antisémitisme, antimaçonnisme, catholicisme tradit pur et dur et des sympathies pro-nazis bien claires.
Et ça marchait bien dans la communauté allemande locale, apparemment.
C'est ce que disent les sources, oui. Et ce MNS, c'était pas juste un club de discussion. Ils avaient des structures, un Instituto de Investigaciones sobre la Cuestión Judía.
Un institut de recherche sur la question juive, rien que ça.
Voilà. Et une revue, elle attaquait. L'attaque. Référence directe à Der Angriff de Goebbels, évidemment.
Évidemment.
Et cette revue, parue de 76 à 89, reprenait des slogans nazis à peine adaptés. Bandera en alto pour Die Fahne hoch.
L'hymne du parti nazi.
C'est ça. Ou Argentina sobre todo pour Deutschland über alles. L'alignement était...
Total.
Mais attendez, il y a encore plus troublant. Les sources parlent d'une possible implication dans la répression pendant la dictature.
Oui, c'est un point assez grave soulevé par certains documents. Son nom apparaîtrait dans des archives liées au plan Condor.
Le plan Condor.
La coopération des dictatures sud-américaines.
Exactement. Pour traquer les opposants, son nom serait cité à côté du général Verplatzen, une figure de la répression à Buenos Aires. Alors attention, ça reste une mention dans des archives, mais si c'est avéré...
Si c'est avéré... Ça change tout. L'idéologue aurait eu les mains dans le cambouis, si on peut dire.
Absolument. Ça signifierait que sa pensée contre-révolutionnaire, son intégralisme radical, c'était pas juste des idées en l'air. Ça aurait pu être connecté directement à l'appareil répressif de l'État. Le penseur est l'acteur potentiel du régime autoritaire. Ça donne une autre dimension, c'est sûr.
Revenons à ses idées. Ce qui le différencie peut-être d'autres néo-nazis, c'est cet ancrage catholique. Il s'en réclame.
Oui, mais attention, pas n'importe quel catholicisme. C'est le catholicisme d'avant Vatican II, celui qu'il idéalise. Et il l'oppose violemment aux réformes du Concile, qu'il voit comme une trahison absolue. C'est là qu'intervient ce concept clé éclairé, le catholicisme intégraliste.
C'est cette idée que la doctrine tradie doit tout régir.
C'est ça, imprégner et diriger toute la société sans compromis. Donc rejet du pluralisme, soumission du politique au religieux et guerre totale au modernisme. Et pour lui, Vatican II, c'est le modernisme incarné. C'est l'ennemi.
Et ce mélange d'intégrisme catholique et de fascination pour le nazisme, ça donne des textes... waouh. Il y a cette citation de la préface de son livre sur Hitler.
Oui, elle est très parlante.
Il écrit « Et il est habituel que de nombreux jeunes arborent fièrement les symboles hitlériens. Sa figure se dresse lumineuse, incarnant la victoire d'un idéal héroïque et supérieur, de la foi sur le matérialisme, de l'honneur sur la déloyauté, de la justice sur l'exploitation, du sang sur l'or. » C'est presque religieux comme temps.
Mais complètement. C'est une transposition directe du vocabulaire religieux. La foi, le sang, symbole de l'esprit, de la race, contre le matérialisme, l'or, symbole de la décadence moderne, capitaliste et, pour lui, juive.
Et Hitler devient une figure lumineuse, un père, un libérateur.
Exactement, presque un sauveur, avec une mission sacrée. C'est ce mélange théologico-politique, cette sacralisation du politique, qui est vraiment sa signature.
Et on en arrive au cœur de son système, là, non? Cette fameuse théorie de la judaïsation.
Son grand œuvre, c'est cette énorme trilogie.
Oui, la judaïsation del cristianismo y la ruina de la civilisation, publiée entre 2004 et 2008, 15 ans de boulot d'après les sources.
C'est quoi exactement cette judaïsation pour lui? Alors, sa thèse centrale, c'est que Vatican II, ce n'est pas juste une erreur. C'est l'aboutissement d'un long, très long processus d'infiltration. Une infiltration lente, méthodique, des idées et de l'influence juive au cœur même de l'Église.
Une infiltration qui remonterait à quand?
Aux origines du christianisme, carrément. Pour lui, ça a commencé très tôt.
Et il accuse qui concrètement?
Il ne mâche pas ses mots. Jean XXIII, qui a lancé le concile, accusé de philo-judaïsme, d'être pro-juif. Paul VI, qui l'a terminé, il le traite de converso.
Converso, le terme utilisé pour les juifs convertis en Espagne, soupçonnés de rester juifs en secret.
C'est exactement ça. C'est une accusation gravissime dans ce contexte. Ça revient à dire que Paul VI était un faux chrétien, un infiltré.
Et il s'arrête à Paul VI?
Non, non. Il laisse entendre que Jean-Paul II aussi aurait cette origine converso. Et la preuve ultime pour lui, le coup de grâce de cette infiltration, c'est la déclaration Nostra Aetate de 1965.
Le texte qui change le regard de l'Église sur le judaïsme.
Voilà, qui reconnaît les racines juives, qui rejette l'accusation de peuple décide. Pour Ivan Eracarles, c'est l'acte fondateur de ce qu'il appelle le judéo-catholicisme, la preuve que l'ennemi a gagné de l'intérieur.
La conclusion logique, c'est que l'Église actuelle n'est plus la vraie Église pour lui.
C'est tout à fait ça. Dans sa vision, le Vatican post-conciliaire n'est plus catholique. C'est devenu, je cite ces termes, le premier instrument fondamental de la domination juive mondiale. Rien que ça. Une théorie du complot total.
Et il fait remonter ça avant Vatican II même.
Autre grand pan de son travail, dans des livres comme Los Conversos, Victimas o Victimadius d'Espagne, ou La Historia Occultada, il utilise cette figure du converso comme une sorte de clé universelle pour tout réinterpréter.
Et qu'est-ce qu'il réinterprète, par exemple?
Sa thèse la plus spectaculaire, c'est sur les indépendances latino-américaines au XIXe siècle. Pour lui, c'était pas une émancipation des peuples, non, c'était une rébellion organisée par une élite de converso crypto-juifs.
Une rébellion. Dans quel but?
Double objectif selon lui, hein. La haine de l'Espagne catholique et de la monarchie, et l'appât du gain, prendre le pouvoir économique et politique pour eux. Du coup, les héros de l'indépendance deviennent des agents d'un complot juif anticatholique. On voit comment tout se tient dans sa logique, hein. L'indépendance devient une étape dans une grande stratégie d'usurpation juive qui continue aujourd'hui avec le sionisme international, etc. C'est un système complètement fermé, une contre-histoire paranoïaque où tout s'explique par la race et le complot.
Les sources le comparent à Adrien Arquin, le Canadien. C'est pertinent comme comparaison?
Oui, c'est intéressant. Arquin, 1899-1967, le Führer canadien, il a fondé le Parti national-social chrétien en 1934. Le point commun évident, c'est cette tentative de marier fascisme pro-nazi et identité catholique. Les deux ont dirigé des mouvements mêlant nationalisme, antisémitisme et référence chrétienne.
D'accord.
Mais il y a des différences importantes, j'imagine.
Oui, quand même. D'abord, le contexte. Arcan agit avant et pendant la guerre au Canada. Rivanera Carles, c'est après la guerre, en Amérique du Sud, dans un contexte différent. Guerre froide, dictature.
Et l'impact ?
L'impact semble différent aussi. L'influence d'Arcan, bien que réelle à l'époque, semble plus limitée sur le long terme, surtout intellectuellement. Ces journaux avaient un lectorat, mais peut-être moins, structuré idéologiquement sur la durée.
Alors que Rivanera Carles...
Lui, il s'inscrit dans une production intellectuelle beaucoup plus soutenue, plus systématique. Il a énormément écrit, sur des décennies. Il a construit un vrai système de pensée. Et il a acquis une certaine légitimité, une reconnaissance dans les milieux tradis et d'extrême droite hispanophone.
Il avait des relais, des éditeurs ?
Oui, il a bénéficié de réseaux d'éditions spécialisées, de revues, plus tard de plateformes en ligne. Son influence intellectuelle, même si elle reste confinée à ses cercles, paraît plus profonde, plus structurée que celle d'Arcan. Il a laissé une œuvre écrite très conséquente.
Justement, cette influence dans le monde hispanophone, comment elle se manifestait ?
Via un réseau assez actif, semble-t-il. Les sources mentionnent sa proximité avec des gens comme Antonio Caponeto, le directeur de la revue Cabildo, un autre foyer nationaliste et antisémite en Argentine.
D'accord.
On trouve aussi des traces d'interviews régulières qu'il donnait, par exemple sur une plateforme web comme TLV1. Ça montre qu'il avait accès à des tribunes qui pouvaient toucher un public au-delà de l'Argentine, dans tout le monde hispanophone, sensible à ces idées-là.
Et sa mort récente, en octobre 2025, ça a eu un écho ?
Oui, dans ces mêmes milieux, il y a eu des hommages. Et l'un d'eux est très significatif. On l'a qualifié de Menéndez Pelayo de l'Argentine.
Menéndez Pelayo ? Le grand intellectuel catholique contre-révolutionnaire espagnol.
Exactement. La comparaison est énorme. Ça montre le statut qu'il avait atteint. Celui d'un intellectuel organique, une référence majeure pour ses mouvements nationalistes et traditionnalistes hispaniques. Finalement, son héritage principal, c'est vraiment cette tentative de fusion systématique entre catholicisme intégraliste, anti-Vatican II, et apologie du nazisme. Sa théorie de la judaïsation, c'est la clé de voûte qui permet de relire toute l'histoire. Et même si ça reste cantonné à des cercles spécifiques, l'ampleur de son travail, son apparente érudition même, mise au service d'une cause terrible, lui ont donné un poids certain.
Donc, pour résumer un peu cette exploration, on a affaire à une pensée radicale, très construite, quasi obsessionnelle, qui propose de réécrire complètement l'histoire et la théologie catholique à travers un prisme antisémite et pro-nazi. Un mélange pour le moins détonnant. Entre travail intellectuel quasi-académique dans la forme et engagement politique potentiellement lié à la répression d'État.
Oui, ce qui est le plus frappant, c'est cette synthèse entre une foi tradie revendiquée et cette apologie d'Hitler. Et pour lui, ce n'est pas contradictoire. Au contraire, il justifie Hitler par sa lecture dévoyée du catholicisme. Il voit le nazisme comme rempart contre la judaïsation. Il apparaît vraiment comme un intellectuel clé pour son milieu, dont les idées ont pu avoir des conséquences très concrètes. C'est un exemple assez glaçant de l'instrumentalisation politique du religieux.
Réinterprété pour servir des idéologies de haine. Des idéologies qui semblent pourtant à l'opposé de leurs principes de départ. C'est une question qui reste ouverte et qui appelle à la vigilance, je crois.
Tout à fait. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, les sources qu'on a utilisées ouvrent des pistes. Il y a les écrits de Rivanera Carles lui-même, pour les plus curieux ou avertis, mais surtout, il y a les travaux d'historiens, de chercheurs, sur ces mouvements d'extrême droite catholique, sur l'antisémitisme en Amérique latine, sur tous ces contextes qui permettent de comprendre comment de telles pensées peuvent émerger et circuler.